Aujourd'hui à Tam Tam, une délégation de parlementaires du Burkina Faso en visite au Canada. Au fin fond des glaces, un voyage en Arctique en images, en son et en glace. Le combat de Marguerite Perkins pour une francophonie vivante et vibrante en Louisiane. Mais d'abord, mobilisation interreligieuse au Canada pour faire face à la famine qui sévit en Afrique. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Le Soudan du Sud, la Somalie, le nord du Nigeria et le Yémen ont en commun d'être secoués par des conflits internes et par de l'insécurité, ce qui a largement contribué aux graves carences alimentaires de ces pays. La famine menace la vie de 20 millions de personnes, d'où l'appel à l'action des communautés confessionnelles du Canada. Des communautés chrétiennes, juives, musulmanes, sikhs, hindous et bahaïs viennent de lancer une campagne nationale contre la famine qui sévit au Yémen et dans quelques pays africains. Citant des données de l'ONU, ces communautés affirment que sur les 20 millions de personnes menacées par la famine, dans les quatre pays, on dénombre 1 400 000 enfants. Guy Desaunier est le coordonnateur de l'action humanitaire à développement et paix Caritas Canada, l'un des regroupements qui soutient l'appel interreligieux des communautés confessionnelles du Canada. Il donne quelques précisions sur cette initiative au micro de Didier Auti.
C'est un appel interreligieux des communautés confessionnelles du Canada qui se sont mis ensemble pour lancer un appel à tous les Canadiens pour d'abord les informer de cette situation catastrophique qui existe là en Somalie, au Yémen, au Soudan du Sud et au Nigeria. Il y a 20 millions de personnes qui sont menacées et qui ont besoin d'aide humanitaire de manière urgente. Alors c'est vraiment une situation exceptionnelle et il est bien vraiment de voir les différentes confessions se mettre ensemble et parler d'une même voix pour appeler les Canadiens à soutenir les organisations qui veulent aider les gens qui sont dans cette situation-là. Moi, je pense que les différentes confessions se mettent ensemble. La valeur de symbole est importante. C'est-à-dire que ce qu'on voit souvent sur le terrain dans les pays, c'est que beaucoup de divisionnisme, de sectarisme, il y a différents groupes qui se battent ensemble. Alors, on a un appel où on dit non, nous, on se met ensemble, on veut démontrer qu'il est possible de travailler ensemble. Le message que l'on lance derrière tout ça, c'est qu'il est possible de construire la paix entre différentes communautés de différentes confessions. Et ça, je pense que c'est un message important que beaucoup de Canadiens, s'ils ne le savent pas déjà, en tout cas, vont apprécier entendre.
Il y a une dimension, donc, message de paix et aussi, bon, le fait que concrètement, il faudrait aider les gens qui sont confrontés à la famine. Et vous faites le lien entre, donc, l'absence de paix et la famine.
Tout à fait. Je pense que dans les quatre pays dont on parle depuis le début de notre entretien, vraiment, on peut clairement dire que la crise est attribuable à la guerre et à la violence. Chacun de ces quatre pays-là vivent en conflit. Dans certains cas, par exemple au Soudan du Sud, la zone où on a déclaré famine, il est très difficile d'y avoir accès à cause des conflits. Donc, c'est vraiment criminel. Même chose au Yémen, même chose en Somalie. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais on n'a pas accès à cause des conflits. Oui, donc pour moi, la relation est très importante à faire et c'est de lier cette crise-là au conflit. Ce qui implique donc que nous avons un rôle à jouer parce qu'on peut influencer les politiques de nos gouvernements de manière à ce qu'ils puissent avoir une intervention en faveur de la paix. On parle de prier, on parle de donner, mais on parle aussi de parler. D'en parler autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, mais également à nos députés fédéraux, provinciaux, de manière à pouvoir influencer les politiques en faveur d'une paix durable. de tous les dons qui seront donnés d'ici le 30 juin, le gouvernement mettra l'équivalent dans un pool, si je peux dire, pour permettre d'augmenter l'aide humanitaire. C'est une première action qui est vraiment très importante parce qu'il faut empêcher les gens de mourir sur le terrain. Puis là, je ne veux pas être sensationnaliste en disant ça, mais c'est malheureusement la situation que les gens vivent. Il faut aussi essayer de trouver une solution au conflit. Et ça, ça passe vraiment par le politique et ça passe par des pressions internationales. Et le Canada fait partie de cela. Il y a des organisations, Développement et Paix, Caritas Canada, par exemple. Nous, on est actifs dans tous les pays mentionnés de la crise. On est en mesure de travailler, on est en mesure d'aider les gens. Donc, c'est possible d'aller sur notre site web et de donner pour contribuer à la réponse à la crise.
Guy Desaulniers, coordonnateur de l'Action humanitaire à Développement et Paix, Caritas Canada, un dossier signé Didier Auti. À lui seul, le Soudan du Sud compterait 100 000 personnes frappées par la famine, 1 million d'autres qui sont sur le point de l'être et 5 500 000 qui sont en danger de famine d'ici juillet. Les conflits armés ainsi que les sécheresses sévères qui y persistent ont par ailleurs incité des centaines de milliers de personnes à quitter leurs maisons et leurs terres. Or, l'ONU dit ne pas disposer de ressources et de fonds suffisants pour endiguer la crise. Ainsi, les communautés religieuses canadiennes invitent les fidèles à agir de trois façons. Prier pour le retour de la paix, offrir des dons financiers aux organismes canadiens présents sur le terrain et parler de la crise à leurs proches. Le Musée canadien de la nature et l'Office national du film, l'ONF, vous offrent une expérience interactive avec de la vraie glace dans la galerie de l'Arctique Canada Goose du musée. Intitulée « Au-delà des glaces », cette installation sera présentée dès l'ouverture de la nouvelle galerie permanente, le 21 juin qui vient. La galerie de l'Arctique Canada Goose constitue la contribution du musée au 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le concept derrière cette collaboration tant scientifique que médiatique est de transporter les visiteurs au fin fond de l'Arctique dans un voyage en images, en son et en glace. Le producteur de l'ONF, Hugues Sweeney, et le directeur du design et gestionnaire de la Galerie de l'Arctique du Musée canadien de la nature, Dan Boivin, nous en offre un avant-goût et nous entraîne au-delà des glaces.
Ça s'appelle Au-delà des glaces. En fait, on a toujours une image un peu stéréotypée de l'Arctique qui est comme cette espèce de gros morceau de glace ou de neige immuable, alors que ce qu'on se rend compte quand on commence à voir de quelle façon est composé l'Arctique, c'est un endroit hyper diversifié. Donc, on avait envie de changer la perception de l'image qu'on se fait de l'Arctique, puis aussi d'amorcer un peu la question du changement, parce que c'est un lieu qui change à une vitesse sans précédent. Une œuvre impressionniste, peut-être pas le bon mot, mais on travaille la matière vidéo, on travaille la lumière, l'animation, le son, beaucoup. Fait que c'est vraiment à travers ces éléments-là de montrer dans les paysages, chez les animaux, chez les êtres humains, l'espèce de panorama de cette diversité-là, de la rendre visible tout simplement.
Donc, c'est avec de la vraie glace. Ça va avoir un effet non seulement intéressant à regarder, mais aussi un effet sensoriel mémorable, du moins on l'espère. Donc, tout ça, c'est pour faire impression sur les visiteurs. Comme ça, quand ils vont ensuite sortir de cet espace-là pour aller visiter le reste de cette exposition-là, ils auront le cœur et l'âme un peu plus ouvertes sur le sujet, étant donné les sensibilités qu'ils ont pu acquérir en regardant l'installation.
Hugues Sweeney, producteur à l'Office national du film du Canada, et Dan Boivin, directeur du design et gestionnaire de la Galerie de l'Arctique du Musée canadien de la nature, une conversation proposée par Paloma Martinez. Thank you. Au cours des dernières semaines, une délégation de parlementaires du Burkina Faso était en visite à Ottawa et à Québec. Depuis que la situation sociale et politique s'est apaisée au Burkina, les désirs de transformation du pays en démocratie moderne s'intensifient. D'où ces visites pour notamment étudier d'autres formes démocratiques de gouvernance et de système légal. J'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Son Excellence Salifou Diallo, dans nos studios ici à Radio-Canada International cette semaine. Je lui ai demandé de nous parler de cette visite.
Nous sommes venus à l'invitation du Centre parlementaire canadien et nous sommes venus échanger avec le Parlement fédéral du Canada à Ottawa et nous avons eu des rencontres également avec le Parlement québécois. Il s'agissait pour nous de nous inspirer de l'expérience parlementaire canadienne pour renforcer nous-mêmes nos propres lois et notre encadrement juridique du pays. Et sans oublier que le Canada aujourd'hui, à travers les sociétés minières canadiennes, le Canada est devenu le premier partenaire économique du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a une dizaine de sociétés qui font de l'exploitation minière dans de très bonnes conditions en respectant, il faut le souligner, les populations locales dans leur intérêt. Et il y a des lois qui encadrent l'acceptabilité du travail des miniers canadiens au Burkina Faso, qui respectent l'environnement surtout, parce que nous sommes un pays salinier au Burkina Faso. Et nous avons, au cours de cette entrevue, signé un accord de partenariat avec le Parlement québécois. Et nous avons rencontré le président de la Chambre de communes, le président du Sénat et la Commission Canada-Afrique au sein du Parlement fédéral.
Vous parlez d'accord signé avec le Québec et de quelle nature?
C'est un accord général de coopération entre les deux parlements où le Parlement canadien s'engage à appuyer en matière de formation logistique le Parlement du Burkina Faso. C'est important parce que le Parlement du Canada a plus d'une centaine d'années. Il y a une expérience dans le vote des lois, dans la mise en œuvre de ces lois.
Docteur Diallo, le Burkina Faso est une république. Le Canada est une entité qui est une monarchie constitutionnelle. Est-ce qu'il y a arrimage potentiel entre les types gouvernementaux?
Non, je crois que chaque pays a son modèle politique. Nous, nous sommes dans une république avec un régime semi-présidentiel. Mais les parlements, que ce soit au Canada ou au Burkina, fonctionnent sur une base de représentativité des populations. C'est ça qui est le plus important. Et les lois canadiennes, dans beaucoup de matières, peuvent être exploitées pour renforcer nous-mêmes notre corpus législatif. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, par exemple en matière d'organisation du secteur économique, s'inspire des lois canadiennes, qui sont de très bonnes lois. Et nous pensons que le Burkina Faso a tout intérêt à renforcer sa coopération parlementaire avec le Canada.
Et est-ce qu'il y a possibilité également d'essaimage de ce partenariat avec vos voisins, absolument, les nations voisines?
Absolument. Il y a une organisation dénommée UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays. Et il y a des lois communautaires qui sont votées dans les différents parlements. Il y a la CEDEAO aussi, et où il y a des lois communautaires qui sont votées. Et notre partenariat avec le Canada s'étend dans beaucoup de domaines. En ce qui concerne, par exemple, l'autonomisation des femmes, nous prévoyons de faire une conférence politique en novembre avec les différentes assemblées de la sous-région ouest-africaine.
D'accord.
Avec la participation et le soutien du Canada.
Et ce soutien du Canada. Bon, vous le soulignez depuis le début, qu'il est solide, mais est-ce qu'il y a des pierres d'achoppement dans ce type de soutien? Est-ce que d'une autre façon aussi, est-ce que la présence française, de la République française et du Canada, est-ce qu'il y a des clashs à Ouaga, par exemple,
non,
en ce contexte?
Non, non, il n'y a pas de clash. Nous, nous sommes un pays indépendant et nous, nos relations en fonction de nos intérêts propres. Et le Canada, aujourd'hui, est un pays très stratégique pour le Burkina Faso. C'est un pays qui...
À ce point, oui.
Absolument. Le Canada est un pays très respecté dans notre pays. Parce que n'oubliez pas que l'histoire politique de notre pays récemment a été l'objet de... On a connu une insurrection populaire.
Absolument, oui.
Où nous avons cherché le régime qui voulait changer la constitution pour rester. Et nous avons organisé par la suite des élections libres, transparentes, démocratiques. Et le Canada a été l'un des pays qui a appuyé ce processus de renouveau démocratique dans notre pays. Et avec les sociétés privées canadiennes, nous avons les meilleurs rapports parce que ce sont des sociétés qui respectent notre réglementation et qui respectent les intérêts des populations. Donc nous avons, avec le Canada également, en partage la francophonie.
Oui, aussi.
Ouais. Et à travers la francophonie, le Canada a toujours appuyé le domaine de l'éducation de base, l'enseignement de base chez nous. Donc nous avons de grands intérêts avec le Canada, ceci indépendamment de nos relations avec les autres pays.
Docteur Diallo, où espérez-vous que puisse être le Burkina dans quelques années, de façon réaliste?
De façon réaliste, nous pensons que le Burkina Faso, dans quelques années, serait une démocratie solide et surtout aurait une économie performante. C'est-à-dire que la jeunesse, qui constitue 65% de notre population, aurait accès à un enseignement de qualité et surtout à des emplois dignes de ce nom. Voilà notre objectif politique, et avec l'appui des partenaires comme le Canada, nous pourrions arriver à faire du Burkina Faso un pays émergent.
Son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En passant, Burkina, c'est en langue nationale moré, la langue des Mossi, ça veut dire intègre. Faso, c'est dans la langue nationale Dioula, la langue des Dioula, qui signifie terre des pères, mère patrie, ce qui donne en définitive pays des hommes intègres.
Vous écoutez Radio-Canada International.
Radio-Canada International.
Uno, dos, tres, cuatro.
Esta es Radio-Canada International.
Les Cadiens forment un groupe ethnique en Louisiane, dont les ancêtres comprennent les Acadiens qui ont été déportés durant la seconde moitié du 18e siècle en provenance de l'Acadie. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le sud du Nouveau-Brunswick au Canada. C'était en 1755. La déportation des Acadiens est une période historique marquante de l'histoire des Acadiens. Elle fait elle-même partie d'une période plus large de l'histoire de l'Acadie qu'on appelle le Grand Dérangement. Qu'en est-il aujourd'hui? Même si cette franco-louisianaise qu'on vous présente termine une thèse de doctorat à la Louisiana State University, Marguerite Perkins est son nom, elle n'a pas l'intention de s'emmurer dans le monde académique. Elle veut rester en Louisiane, aux États-Unis, pour participer au renouveau francophone dans cet État. Marie Jobin s'entretient avec Marguerite Perkins, originaire donc de Lafayette en Louisiane. Madame Perkins participe cette semaine à la 5e édition de l'Université d'été du Centre de la francophonie des Amériques, le tout se tenant à Saguenay, au Québec.
À peu près au centre de la Louisiane. C'est la partie de la Louisiane, le sud, c'est la partie qui est plutôt d'origine francophone et culturellement francophone, même si on a une situation très, très minoritaire au niveau de langue. La culture francophone est toujours très, très, très vivante. Et mes parents, mon nom de famille, c'est Perkins, donc mon papa, c'est un Américain, on dit, mais c'est un gentil Américain aussi. Parce que des fois, on fait une petite distinction en Louisiane entre les Américains, même on dit ça en anglais. Mais il est Américain, mais il vient de Lafayette aussi. Et ma mère, elle est cajène, on peut dire, elle est franco-louisianaise, même si elle-même, elle parle pas français. Parce que ses parents étaient tous les deux francophones. Ma grand-mère s'appelait Saunier et mon grand-père s'appelait Pierret. Ils n'ont pas parlé en français à leurs enfants, ce qui était à peu près la norme pour l'époque. C'était à cette époque-là que le grand, grand changement de langue principale dans les maisons en Louisiane, ça a changé avec l'enfance de ma mère. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai été élevée monolingue anglophone, tout comme ma mère, et j'ai décidé d'apprendre le français.
Vous avez dit que votre mentor, c'est Amanda Lafleur. Parlez-nous de ce personnage important pour les Cadjuns.
C'est une de ces personnes, on ne sait pas comment elle fait tout. C'est une grande, grande activiste de la francophonie louisianaise. Et elle fait partie de plusieurs projets pour la francophonie louisianaise. Pour en nommer quelques-uns, le Dictionnaire du français louisianais, Ça a pris 12 ans à publier, mais c'est un dictionnaire très complet, assez complet du français, comme c'est parlé en Louisiane. Elle faisait partie du comité de rédaction. Elle a beaucoup soutenu puis amplifié le programme en études CADGEN à la Louisiana State University, où j'enseigne et j'étudie. Il y a un programme où les jeunes Louisianais, ils peuvent faire leur cours obligatoire en langue, disons, étrangère, mais ils peuvent faire ça avec le français louisianais spécifiquement. Elle a fait plusieurs projets avec un centre qui s'appelle Nounou, N-U-N-U, à Arnaudville, qui est une petite communauté assez francophone toujours. Nounou, c'est un centre d'art et de culture, et il y a beaucoup de programmes pour la langue française. Ils font des séjours pour les étudiants qui viennent de différentes universités. Je crois qu'ils ont fait des accords avec NYU à New York, avec Indiana University et avec LSU aussi, où ils font des programmes d'immersion en langue et culture louisianaise. Ils vont à la pêche des écrevisses. Ils apprennent à jouer un jeu de cartes cajun qui s'appelle la bourre. Ils ont des interactions, des conversations avec les gens de la communauté à Arnaudville, des gens francophones. Donc, c'est juste pour nommer quelques projets d'Amanda Lafleur. C'est une déesse, vraiment, de la francophonie louisianaise.
Dites-nous pourquoi vous ne comptez pas continuer dans le monde universitaire après votre doctorat pour vous impliquer davantage dans la communauté cajun?
C'est absolument ça. Deux raisons. Premièrement, si vous voulez être professeur à l'université, en ce moment aux États-Unis, il faut être prêt à partir n'importe où. Et moi, je ne veux pas quitter la Louisiane. Et deuxièmement, même si je trouvais un poste à une université louisianaise, il y a beaucoup de possibilités pour travailler dans la communauté. Mais quand j'ai commencé à faire des projets concrets, plutôt que la théorie, et la théorie est importante, bien sûr, mais quand j'ai commencé à faire des projets et de voir des résultats concrets, ça m'a beaucoup inspirée, puis ça m'a donné une énergie pour continuer, puis travailler avec d'autres gens dans la communauté, quoique quand je faisais mes recherches, souvent c'était avec un livre à la bibliothèque, puis... C'était à peu près tout. Donc, je crois que c'est à peu près ça. Ça donne le côté humain. C'est difficile d'être activiste. Pour moi, je trouve ça difficile d'être activiste et rester dans l'académie parce qu'il y a un côté où il faut rester éloigné du sujet. Et moi, je suis pas neutre. Pas du tout. Au sujet de la franco-louisianaise, je suis pas du tout neutre. Les autres francophones dans le monde, ils disent cajun et c'est comme un franco-anglicisme. C'est la prononciation française d'un mot anglais cajun. Les anglophones qui essayaient de prononcer et d'écrire cajun. Et en fait, il y a deux orthographes acceptées en Louisiane. Il y a l'orthographe qui tient plus à l'étymologie, qui est C-A-D-I-E-N ou I-E-N-N-E au féminin. Et puis, il y a l'orthographe qui tient plus à la prononciation, ce qui est C-A-D-J-I-N. Mais en général, ça se prononce cajun, cajun.
Marguerite Perkins, une cajunne de Lafayette en Louisiane, est fière de l'être au micro de Maryse Jobin. Voilà, c'est là-dessus que s'achève notre tam-tam aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Ici Raymond Desmarteaux. Au revoir. À bientôt.